Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu exceptionnelle qui ne sera pas dédiée à une maladie rare en particulier, mais à la mise en place de protocoles d'urgence dans la prise en charge des maladies métaboliques rares. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Pascal Delonlay. Professeur Delonlay, bonjour.
Bonjour.
Professeur Delonlay, vous êtes pédiatre métabolicien, chef du service de maladies métaboliques pédiatriques à l'hôpital Necker à Paris et responsable du centre constitutif des maladies héréditaires du métabolisme. Vous êtes également coordinatrice de la filière G2M, la filière de santé des maladies rares et héréditaires, et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Alors tout d'abord, professeur Delonlay, qu'est-ce qu'une maladie rare héréditaire du métabolisme ?
Une maladie héréditaire du métabolisme est une maladie génétique rare, une maladie métabolique, avec un gène défectueux qui code pour une protéine, classiquement, qui intervient dans une voie métabolique ou une voie biochimique, qui transforme un produit A en un produit B. Donc on est fait de biochimie dans tous nos organes. Et si une voie métabolique est défectueuse, il y a une accumulation d'un produit A en amont du déficit, et une diminution d'un produit B en aval du déficit, ce qui fait qu'on est malade. Et on classe ces maladies héréditaires du métabolisme en trois groupes. Le premier groupe en des maladies d'intoxication aux protéines ou au sucre, où le produit A qui s'accumule est dérivé des protéines ou des sucres, notamment de l'alimentation. Et cette accumulation entraîne des signes neurologiques. Typiquement, c'est un coma après la naissance ou à n'importe quel âge de la vie, ou une atteinte du foie, et ce, de façon aiguë. Le deuxième groupe des maladies métaboliques consiste en des maladies énergétiques où le patient ne fait pas assez d'énergie. Alors, on a plusieurs maladies énergétiques. Tout organe peut être atteint, mais dans d'autres maladies, on peut avoir essentiellement une atteinte du foie avec une hypoglycémie, une atteinte du cœur et ou une atteinte du muscle, et encore une fois de façon aiguë. Et on a un troisième groupe de maladies héréditaires du métabolisme qui consiste en des maladies plus complexes, maladies d'organelles de la cellule, comme on dit, maladies du lysosome, du peroxysome, etc., qui concernent d'autres voies biochimiques. Et là, on est moins dans des signes aigus des pathologies. Donc, les signes cliniques aigus, avec une prise en charge extrêmement rapide, concernent surtout les maladies du groupe d'intoxication et les maladies énergétiques. Et ces patients sont pris en charge dans des centres de référence ou de compétences de maladies rares, coordonnées par cette filière nationale des maladies héréditaires du métabolisme que l'on appelle filière G2M, alors qu'il existe 23 filières nationales de maladies rares, dont G2M.
Et dans ce cadre, pourquoi s'intéresser aux situations d'urgence des maladies métaboliques rares ?
Parce que beaucoup de ces maladies sont traitables, mais s'aggravent de façon brutale, aiguë, dans des situations à risque. Ce sont le groupe des maladies d'intoxication et le groupe des maladies énergétiques. Ces situations à risque sont les fièvres, les gastroentérites, une anesthésie, c'est-à-dire l'environnement que l'on peut rencontrer dans une vie normale. Et pour les maladies d'intoxication aux protéines, il peut s'agir aussi de charges en protéines de l'alimentation. Et dans ces situations à risque, si on ne fait rien, le patient va se dégrader, il va décompenser. Il faut donc anticiper et appliquer un traitement d'urgence dans toutes ces situations à risque de décompensation, même si le patient n'est pas encore décompensé, car si on ne fait rien, il décompensera. Nous proposons donc un traitement très spécifique que l'on appelle traitement d'urgence. Et ce traitement d'urgence peut être fait à la maison avec des parents ou des patients experts, mais il doit être fait également à l'hôpital quand il faut des perfusions ou quand un malade a une décompensation. Et par ailleurs, les maladies plus complexes, troisième groupe dont je parlais tout à l'heure, ont certaines particularités. Certaines maladies ont des difficultés pour l'intubation au moment de chirurgie et d'anesthésie. D'autres sont à risque d'hémorragie au moment de chirurgie. Donc, il faut des protocoles d'urgence. Et parce que ces traitements d'urgence sont peu connus par les équipes non spécialisées, et c'est normal, nos maladies sont très rares, nous avons écrit des protocoles d'urgence destinés aux services d'urgence, de réanimation, de néonatologie, pour les anesthésistes, pour améliorer et harmoniser la prise en charge en aigu des enfants et des adultes avec une maladie héréditaire du métabolisme en situation d'urgence.
Alors, vous avez mis en place une série de fiches d'urgence pour ces patients. Qu'en est-il ?
Donc, nous avons effectivement écrit des protocoles d'urgence harmonisés et concis pour fournir aux professionnels de santé des conseils pratiques. Ce sont des protocoles d'urgence adaptés à un service d'urgence où il faut aller vite. Donc, c'est un protocole qui est très court, qui est concis, sur une feuille A4, recto-verso. Donc, on a une cinquantaine de protocoles d'urgence, soit par maladie, et on donne à un patient le protocole de sa maladie, donc il souffre, et puis des protocoles d'urgence par symptôme. On a par exemple des protocoles pour conduite à tenir en cas de coma, d'hypoglycémie, d'acidocétose, etc. Et ceci sert pour un patient qui est non connu pour les urgentistes ou les réanimateurs.
Et comment est-ce que vous avez travaillé pour l'élaboration de ces protocoles d'urgence ?
Alors, ça a été un fruit d'un travail collectif et j'en profite pour remercier tous les participants de ces protocoles d'urgence. Nous avons écrit et harmonisé ces protocoles d'urgence avec l'ensemble des centres de référence et de compétences des maladies rares métaboliques, c'est-à-dire avec un groupe de médecins cliniciens essentiellement, mais aussi des biologistes, des pharmaciens, un infirmier, des associations de patients qui représentent l'ensemble des acteurs de la filière des maladies héréditaires du métabolisme, la filière G2M. Nous nous sommes réunis une fois par mois par visio pendant un peu plus de 2 ans. Et les coordinateurs de ce groupe proposaient une trame qui a été modifiée, qui a été travaillée, harmonisée avec l'ensemble du groupe. On a également fait appel à des médecins spécialistes d'autres spécialités, d'autres filières maladies rares, d'un organe, selon la maladie, par exemple un cardiologue, un hématologue, un neurologue, un anesthésiste, un hépatologue, etc. Et aussi et surtout, de façon très importante, nous avons fait appel à nos collègues réanimateurs, urgentistes, néonatologistes, toujours anesthésistes, et à quelques médecins de ville qui ont travaillé avec nous ces protocoles d'urgence de façon systématique.
Et comment ces protocoles d'urgence sont-ils diffusés ? Comment est-ce qu'on peut se les procurer ?
Alors tout d'abord, ce protocole est destiné à un patient. Donc on donne à tout patient avec une maladie héréditaire du métabolisme le protocole d'urgence adapté à sa maladie. On demande au patient de le mettre dans son téléphone, de le garder sur lui, cette feuille A4, dans son sac, de le mettre également dans ses téléphones portables, on peut le télécharger, il y a un onglet urgence dans les téléphones portables. Et comme s'il y avait un accident de la voie publique, un pompier ne va pas repérer une feuille A4. Le ministère a donné des petites cartes d'urgence pour toutes les filières maladies rares, où on met bien sûr le nom du patient, le nom de la maladie. Et on a fait un QR code dans cette petite carte d'urgence qui est mise dans le portefeuille du patient, parce que le pompier va regarder le portefeuille d'un patient pour voir effectivement s'il n'y a pas un indice de maladie rare. Et ce QR code relie directement au protocole d'urgence. Et on demande également au patient de mettre dans cette petite carte, il existe un protocole A4 feuille papier dans mon sac. Par ailleurs, ces protocoles d'urgence sont sur le site internet de la filière. Quand vous tapez filière G2M sur internet, vous tombez sur le site internet de la filière G2M et en haut à droite de l'écran, on a un onglet en rouge qui est l'onglet urgence. On clique dessus et on tombe sur tous les protocoles d'urgence par maladie et par symptôme. Ainsi, pendant nos astreintes téléphoniques, quand on a un réanimateur ou un urgentiste au téléphone, on peut lire ensemble ce protocole d'urgence. Avant, on l'envoyait par email à ses médecins. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide de le lire ensemble chacun sur Internet. Et on les donne également aux services d'urgence et des réanimations, mais finalement, c'est plus simple de le lire sur Internet. Et on sensibilise sur l'accès à ces protocoles d'urgence par des informations générales comme aujourd'hui sur un podcast très important pour les patients, pour les associations de patients et pour les médecins. Bientôt sur des webinars qui vont être faits dès début décembre. On les a présentés à des congrès. On les a également communiqués à l'international dans notre congrès européen début septembre, car finalement, l'ensemble de ces protocoles n'existent pas à l'international. Il y a eu quelques protocoles d'urgence faits, notamment en Angleterre, mais peu et pas aussi, à mon sens, précis quant à l'attitude à avoir, notamment dans des contre-indications médicamenteuses, etc. Et un article est en cours de soumission et on fera un lien avec l'ensemble de ces protocoles d'urgence dans ce papier qui sera lu par des professionnels de santé.
Et concrètement, professeur Delonlay, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples illustratifs d'informations disponibles sur ces fiches ?
Alors, ces protocoles d'urgence sont toujours écrits de la même façon. Ils suivent un même plan qui est commun à tous les protocoles d'urgence. En recto, donc sur la première page, on précise que le patient doit être pris en charge en priorité aux urgences de son hôpital, de proximité. Puis on met les consignes de bilan, quelle prise de sang ou d'urine on doit faire. Et en parallèle, sans attendre les résultats du bilan, on doit traiter, amorcer le traitement. Car si le patient n'est pas encore décompensé, il va décompenser dans une situation à risque. Donc on n'attend pas qu'un bilan soit perturbé pour amorcer les traitements. Donc on indique ces traitements avec les perfusions qui sont précalculées en millilitres kilo jour pour un enfant, en millilitres jour pour les adultes. Ainsi, il y a peu d'erreurs pour ces perfusions. On indique également les médicaments, les doses à apporter. Les patients généralement apportent leurs médicaments car toute pharmacie d'un hôpital ne les a pas forcément. Et toujours en recto, on met les signes de gravité qui font dire qu'un patient s'aggrave, est en réelle décompensation et doit aller en soins continus ou en réanimation. Sur l'autre deuxième page, c'est-à-dire sur le verso, on met les généralités de la maladie de façon courte, c'est-à-dire le mécanisme de la maladie. On met également les contre-indications médicamenteuses, la conduite à tenir en cas d'anesthésie et les modes d'application des médicaments, car on est parfois appelé parce qu'une infirmière ne sait pas comment donner tel médicament sur une perfusion. Et enfin, sur cette dernière page, on met le numéro de la strate médicale d'urgence du centre du patient en cas de question par les médecins qui ont aux urgences ce patient. Alors évidemment, sur le site internet, on n'a pas de numéro de téléphone, car les numéros d'astreinte sont spécifiques à chaque centre de référence ou de compétence.
Et pour conclure, professeur Delonlay, quelle est l'ambition de la filière G2M avec ce projet ?
Alors c'est déjà d'avoir créé des documents qui sont harmonisés avec l'ensemble des acteurs, des soignants de la filière des G2M. Ces protocoles d'urgence vont être revus chaque année, car ils seront critiqués par les patients, par les urgentistes, parce qu'il y a des modifications maladie par maladie. Ils ont trois objectifs. Pour les médecins urgentistes de réanimation, de néonatologie, c'est un gain de temps. C'est une meilleure gestion de l'urgence. Pour les patients, c'est une accélération de la prise en charge en aigu. C'est une sécurité des soins. C'est une diminution du stress, car ils n'ont pas à réexpliquer toute leur pathologie, alors que ce sont des patients ou des parents experts. Mais c'est marqué sur un protocole et voilà. Pour les métaboliciens, c'est une limitation des risques d'erreur, c'est une harmonisation des pratiques pour la filière en France, c'est la diminution peut-être des appels de nuit, c'est peut-être donc une prévention également des épuisements des professionnels, même si on peut être appelé sur nos astreintes, c'est notre métier de répondre à des médecins qui peuvent être en difficulté. Mais attention, ces protocoles ne remplacent pas les conseils d'experts. Donc, on reste appelable s'il le faut, si possible, moins possible la nuit, car nos astreintes sont chargées. Ces protocoles n'ont pas d'incidence non plus sur la responsabilité des professionnels de la santé qui ont en charge le patient devant eux. Donc, devant un patient, il faut s'adapter bien sûr au cas par cas. Ce patient, il peut avoir également une infection à traiter, une autre urgence qui ne sera pas une maladie héréditaire du métabolisme.
Eh bien, merci mille fois, professeur Delonlay, pour votre témoignage très éclairant sur la mise en place de ces protocoles d'urgence dans la prise en charge des maladies métaboliques rares. Quant à nous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur une nouvelle maladie rare. À très vite.